accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, le Monténégro doit élire son président ce dimanche. Une élection cruciale et assez tendue, car ce petit pays des Balkans est plongé depuis des mois dans une interminable crise politique. Il y a d'ailleurs des craintes que la Russie puisse chercher à attiser les tensions entre deux candidats, le président sortant Milo Djukanovic et le pro-russe Andrija Mandić. Le Monténégro et ses 620 000 habitants sont en tout cas déjà profondément bouleversés par la guerre en Ukraine. Ces derniers mois, des dizaines de milliers d'Ukrainiens, mais aussi des Russes, se sont installés sur la douce côte monténégrine. Plutôt bien accueillis par la population locale, notre correspondant Louis Seyé s'est rendu près de la ville de Bar, sur la côte, son reportage.
Lorsqu'on a quitté Moscou pour le Monténégro, on a fait une escale à Istanbul. Et dès que je suis sortie de l'aéroport d'Istanbul, j'ai crié « Vive la liberté !»
Assise à une terrasse balayée par les embruns de la mer Adriatique, Mila souffle de soulagement. Après des mois de cauchemar, cette moscovite de 37 ans a finalement réussi à quitter la Russie avec sa famille, direction la côte du Monténégro. À Moscou, Mila était la responsable de l'un des lieux alternatifs les plus réputés de la capitale russe. Mais les lectures de poèmes anti-guerre n'ont pas été du goût des autorités. Le club a été fermé et ses murs tagués de la lettre Z.
C'était devenu très très difficile de vivre à Moscou. C'était à la fois mentalement et physiquement difficile. J'ai fait plusieurs crises de panique. C'était un ensemble de sentiments, de honte par rapport à l'Ukraine, de peur bien sûr, avec la mobilisation et tout cet obscurantisme. Avec mon mari, on a décidé qu'on n'aurait plus peur et qu'il fallait aller de l'avant, car nous avons des enfants en bas âge et nous voulons vivre et être heureux.
Dans les petites ruelles en pente qui surplombent la mer, les maisons de vacances du village de Chouchagne sont presque toutes occupées par des familles russes, ukrainiennes ou biélorusses. Selon certains experts locaux, il serait plus de 80 000 à avoir émigré au Monténégro ces derniers mois. Un chiffre considérable dans ce pays de seulement 620
000
habitants.
Ici, nous pouvons rester avec un permis de résidence temporaire, ce qui nous donne des opportunités. Et l'école où vont nos enfants m'a proposé de devenir leur responsable artistique et d'organiser des événements ici. Grâce à ce travail, je pourrais obtenir un permis de séjour longue durée et envisager les choses de manière plus stable. J'aimerais vraiment que ça marche.
Pour assurer l'éducation de leurs enfants, ces nouveaux arrivants se sont organisés et la famille de Mila a par exemple participé à l'ouverture de cette école internationale pendant l'automne. Cette école privée compte déjà plus d'une centaine d'élèves, en grande majorité russes, mais aussi ukrainiens. Comme les enfants, la plupart des enseignants ont fui la Russie belliqueuse de Vladimir Poutine. Ici, les parents peuvent choisir de suivre les programmes russes ou ukrainiens, et les valeurs humanistes sont au cœur de la pédagogie. À 35 ans, Igor est le directeur de cette école née du conflit en Ukraine.
Le 24 février dernier, cela marquait le premier anniversaire du début de la guerre. Et nous avons invité les enfants et les parents à venir partager leurs histoires. Comment était-ce pour eux ce premier jour de guerre? Les enfants ont partagé leurs expériences. Certains d'entre eux ont raconté comment ils ont quitté leur maison. D'autres qu'ils ont eu peur. Les adultes aussi ont également partagé leurs histoires. Nous parlons tous ensemble de tout cela, mais l'école n'a pas de position officielle à transmettre aux enfants.
Au Monténégro, les Russes comme les Ukrainiens sont plutôt bien accueillis par la population. Les liens avec la Russie sont anciens et ces 20 dernières années, les dirigeants ont largement favorisé les investissements russes, notamment dans le nautisme et le tourisme de luxe. Si le gouvernement a condamné l'invasion de l'Ukraine et gelé les avoirs de certains oligarques russes, il ne s'oppose pas à l'arrivée des nombreux exilés russes. Maya Raïchevitch est une figure de la société civile monténégrine.
La plupart des Russes qui viennent vivre ici ne sont pas favorables à l'agression contre l'Ukraine. Et beaucoup d'entre eux sont en fait venus pour éviter la mobilisation et de participer à la guerre. Je les soutiens absolument. Et je tiens à ce que le Monténégro soit un pays ouvert, qui accepte des personnes d'autres nationalités et qui cultive un certain multiculturalisme. Je veux aussi vraiment croire que ces personnes qui arrivent de Russie ou d'Ukraine seront accueillies avec hospitalité. Mais je suis également consciente que les conditions pour les réfugiés ne sont pas forcément excellentes et qu'il n'est pas facile de trouver un emploi. Il existe différentes barrières à leur intégration, et certaines personnes ont certainement besoin d'aide. Pendant combien de temps notre pays pourra répondre à ces besoins? Ça, il faudra voir.
Alors que la crise politique qui oppose les partis pro-européens et les partis pro-serbes monopolise l'attention des dirigeants monténégrins, certains se demandent si le pays pourra faire face sur la durée à cette immigration inédite. Selon des données récoltées par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, les réfugiés ukrainiens seulement représenteraient près de 5% de la population du Monténégro.
Obtenir un titre de séjour en échange d'un investissement dans le pays, voilà qui ne sera bientôt plus possible au Portugal. Après l'Irlande, Chypre et la Bulgarie, Lisbonne met à son tour fin au visa doré. Un système qui a eu l'avantage de remplir les caisses de l'État, mais avec un effet collatéral, l'explosion des prix de l'immobilier. Dans les sondages, 9 Portugais sur 10 se plaignent d'une crise du logement. Pour la population, c'est donc un soulagement et une bonne nouvelle, Clémence Pénard.
Les Golden Visa portent bien leur nom. Ça concerne les investisseurs étrangers en mesure soit de dépenser 500 000 euros pour un achat immobilier au Portugal, soit d'investir 1 million d'euros dans l'économie du pays, soit encore d'y créer 10 emplois. Ils ont été mis en place en 2012 quand l'État, en pleine crise financière, devait renflouer ses caisses. Un vrai succès, 12 000 investisseurs, dont la moitié chinois, mais aussi de nombreux Brésiliens et Américains, ont alors acheté ces tickets d'or. Et en 10 ans, ce système rapporte près de 7 milliards à l'État. Mais il y a un hic. Ces investisseurs ont acheté des immeubles, y ont fait des travaux pour les habiter ou les louer. Tout cela a fait exploser les prix de l'immobilier. Plus 75% des prix d'achat sur cette décennie et plus 25% pour les loyers. Aujourd'hui, un petit studio, pourtant loin du centre de Lisbonne, par exemple, peut se louer jusqu'à 850 euros. Le gouvernement portugais a donc décidé d'abandonner ses visas pour réguler le marché. Parallèlement, d'autres mesures doivent être mises en place afin de faciliter l'accès au logement des Portugais, comme une aide de 200 euros pour les locataires ou un gel des licences Airbnb. Les visas dorés ont subi le même sort en Irlande, cette fois plutôt pour limiter l'évasion fiscale. L'Union européenne, quant à elle, appelle tous les États membres à supprimer ces visas coupe-fil. La Bulgarie et Chypre y ont ainsi renoncé. En revanche, ce régime persiste à Malte pour s'attirer de grosses fortunes sur son territoire. Malte fait donc de la résistance.
Merci Clémence Pénard. Chaque semaine, en partenariat avec Enter, vous nous racontez des initiatives vertueuses en Europe. La vidéo à retrouver sur leurs réseaux sociaux. Comment s'assurer d'une égalité de traitement entre femmes et hommes jusque dans les décisions collectives d'une ville ? La commune d'Umeå, dans le nord de la Suède, y travaille depuis les années 90. Véritable pionnière en la matière, la ville a ouvert le premier musée consacré aux grandes femmes du pays en 2014. Mais depuis 1989, elle a aussi 2 employés municipaux qui réfléchissent à toutes les politiques publiques de la ville, dans les transports ou la culture par exemple, à travers le prisme de l'égalité hommes-femmes. Carlota Morteo s'est rendue à Umeå pour nous.
Ce n'est pas la statue équestre d'un roi qui surplombe la grande place du centre-ville, mais un puma visiblement en colère.
C'est la première et a priori la seule œuvre d'art au monde qui a été commissionnée par une institution publique pour célébrer le mouvement MeToo.
Linda Gustafsson est responsable de l'égalité des genres à la mairie, un poste qui existe depuis 1989.
Le corps du félin est très puissant, peint en rouge pétant. Il rugit assis sur sa cage. L'œuvre s'intitule « Écoute ». C'est son message. Écoutez et croyez les femmes quand elles vous parlent d'abus et de violence.
Elle nous emmène voir un tunnel piéton sous la gare où des femmes ont été agressées.
Le vieux tunnel était très étroit, sombre. Beaucoup de gens avaient peur de le traverser. Il ne donnait pas le sentiment d'être en sécurité.
Il a été totalement reconstruit, plus large, plus lumineux, sans angle mort. Il y a même une échappatoire au milieu, avec sur les murs une longue fresque et des citations évoquant la nature. La préférée de Linda parle de la beauté de l'automne, mais c'est le long des berges du fleuve gelé qu'est né un autre projet pensé pour et par des femmes.
Ici, c'est la zone libre, comme on l'appelle.
Nous voilà devant des bancs publics en forme de grandes balançoires. C'est le résultat d'ateliers menés en non-mixité avec de jeunes adolescentes.
En général, nous, les mairies, quand on construit des espaces pour les jeunes, on a tendance à encourager l'activité physique, des terrains de foot, de basket, des skateparks. Mais elles nous ont dit clairement qu'elles voulaient autre chose, un endroit où l'on n'attendait pas d'elles qu'elles fassent quoi que ce soit, juste un lieu pour se poser, écouter de la musique. Il y a des haut-parleurs dans la toiture, donc tu peux connecter ton téléphone via Bluetooth.
Umea est devenu un petit laboratoire de l'égalité des genres dès les années 70. Son premier projet, la construction de logements sociaux pensés pour les mamans, avec les fenêtres des cuisines orientées vers les cours intérieurs pour garder un œil sur les enfants qui jouent dehors. C'est aussi à Umeå qu'a ouvert en 2014 le seul musée de Suède dédié à l'histoire des femmes.
C'est vraiment une salle très rose. Les murs sont recouverts de fourrure rose, le sol de tapis rose. C'est un choc visuel dès que tu rentres.
Émilie nous guide à travers cette exposition consacrée à la déferlante MeToo, un mouvement dont l'ampleur a surpris dans ce pays réputé égalitaire.
Nous avons une longue histoire d'organisation collective. Nous sommes très syndiqués. La spécificité du mouvement MeToo en Suède, c'est qu'on n'a pas montré du doigt des hommes en particulier comme Harvey Weinstein aux États-Unis. Ici, on a dénoncé les abus d'un point de vue systémique. Chaque branche professionnelle, les médecins, les enseignants, les métiers du théâtre, du cinéma, même les sans-abri, tout le monde avait un hashtag différent et ses propres slogans pour parler de ce qu'il se passait dans son milieu social.
Très structurés, ces collectifs ont brisé la loi du silence et exigé une loi sur le consentement. Un acte sexuel qui n'a pas été clairement accepté est désormais considéré comme un viol devant les tribunaux.
Même si on a bien avancé en termes d'égalité homme-femme, ce n'est pas parfait. Il y a encore du travail en Suède et dans le monde.
À 20 minutes à pied du centre-ville, le complexe sportif d'Umea et cette pelouse où s'est entraînée la meilleure équipe de foot féminin d'Europe dans les années 2000. L'Umea IK, pleine de talent mais qui a sûrement aussi bénéficié d'un petit changement toujours en vigueur aujourd'hui. La plage horaire entre 16h et 19h, la meilleure de la journée, est octroyée à l'équipe la mieux classée dans sa division, quel que soit son sexe.
Depuis janvier, Paris a été contrainte par la Cour de justice européenne d'interdire les néonicotinoïdes pour la culture de la betterave. Ces pesticides, surnommés « tueurs d'abeilles », sont en réalité interdits depuis 2018 par l'Union européenne. Mais la France avait obtenu une série de dérogations pour ses cultivateurs de betteraves qui peinent à lutter contre la jaunisse qui ravage leur culture. Aujourd'hui, plus le choix, il faut trouver des alternatives aux néonicotinoïdes et c'est la mission du pôle expérimental de l'Institut technique de la betterave dans le nord de la France, une structure unique, Lise Verbeck.
Donc cette serre fait 230 mètres carrés.
Dans cette serre, construite il y a deux ans, cinq ingénieurs agronomes de l'Institut technique de la betterave, dont le directeur du pôle, Ghislain Malatesta, multiplient les essais pour trouver une alternative aux néonicotinoïdes.
On cultive les betteraves sur des tablettes, hein, c'est pas en plein sol, là, c'est sur des tablettes. Donc l'avantage de la serre, c'est qu'on arrive à faire plusieurs séries d'essais par an, que dans les champs, ben, on en fait une série. Et puis on s'arrête là, il faut attendre l'année d'après, tandis qu'ici, on est capable donc de faire 5 à 6 séries d'essais par an.
Le centre de leur recherche, c'est le puceron vert. C'est lui qui est responsable de la jaunisse de la betterave. Les néonicotinoïdes, l'insecticide présent dans l'enrobé qui entoure la graine de betterave, permettait de protéger la plante de ces pucerons. Interdit en 2018 par l'Union européenne, la France avait autorisé une dérogation pour les betteraviers en 2021, après une année catastrophique en termes de jaunisse. Aujourd'hui, les néonicotinoïdes sont de nouveau interdits. La pression sur la recherche s'accentue. Il faut trouver des solutions. Au pôle d'expérimentation, des millions de pucerons sont élevés pour les tests réalisés dans des caisses de 1 mètre carré.
Là, on fait des tests également pour voir si le puceron il est attiré par des odeurs. Donc là, dans cette cage-là, nous avions mis des pucerons. Vous voyez, il y en a encore un qui bouge là. On met des pucerons dans cette boîte. On les a un petit peu sevrés pendant quelques temps. Et puis après, bah, le puceron il va se balader, il va aller voir si c'est deux variétés différentes. Puis on va voir si cette betterave-là l'attire plus le puceron que l'autre. Donc aujourd'hui, on ne voit pas trop d'écart dans ce test-là, mais bon, c'est des tests qui sont faits en cours, donc c'est plus ou moins long. On voit bien les pucerons, hein, vous voyez, comme ça bouge vite quand même.
Dans d'autres caisses, l'agronome teste la technique des plantes compagnes.
Dans ces bacs-là, on a semé des betteraves, comme on le voit au milieu, et de l'avoine, par exemple ici, qui ont un effet leurre. Donc, entre guillemets, le puceron est perturbé quand il arrive dans le champ. Il devrait être censé voir les betteraves. Il ne les voit pas, il est perturbé. Donc, on ne sait pas aujourd'hui si c'est une perturbation olfactive ou de l'œil. Mais en tout cas, le puceron ne va pas sur les betteraves pendant un certain temps et va ailleurs. Donc, jusqu'au stade 4 feuilles, comme on a là ici, ça marche très bien. Une fois que les betteraves dépassent le stade 4 feuilles, l'avoine n'est plus efficace pour repousser les pucerons. Et donc, il faut passer deuxième étape pour lutter contre les pucerons. Donc, c'est là qu'on fait des apports de produits aphicides pour lutter contre les pucerons.
Dans la serre sont testées aussi des huiles essentielles pour repousser les pucerons ou encore de la chaux pour observer les conséquences sur l'insecte. À cela s'ajoutent des recherches sur les semences.
Tous les semenciers présents en betterave, on a 6 semenciers différents en betterave, font des recherches sur leur génétique. Et on met le doigt, ça y est, sur des gènes qui luttent contre la jaunisse. Mais maintenant, ces gènes, il faut que ça se multiplie dans les semences.
Toute la filière est mobilisée au travers d'un plan national de recherche et innovation mis en place en 2020 pour 3 ans. Fabienne Maupa est membre du comité scientifique du plan. Elle travaille sur plusieurs niveaux et le premier est d'aller à la racine du virus de la jaunisse.
Les pucerons qui transmettent les virus des betteraves vont d'abord s'alimenter sur une plante qui elle-même aura passé l'hiver en présence du virus. Et donc au printemps, c'est sur ces plantes que le puceron va s'alimenter, acquérir le virus, puis ensuite il reprend son envol pour atterrir sur une parcelle de betterave et la contaminer. Donc nous sommes en train d'identifier toutes ces plantes réservoirs de virus pour essayer de les contrôler et de diminuer la présence de virus dans l'environnement.
Il n'y a pas une seule solution pour remplacer les néonicotinoïdes, mais plusieurs. Il faudra encore 2 ou 3 ans pour qu'elles soient utilisées dans les champs, car il faut encore que leur efficacité soit démontrée dans des tests grandeur nature. C'est en tout cas un défi énorme pour la filière betterave, d'autant plus face au réchauffement climatique, car les pucerons prolifèrent davantage quand l'hiver et le printemps sont doux et secs. Une problématique de ravageurs qui touche la betterave, mais aussi toutes les autres cultures.
Wait to hear my next record. Maybe the critics won't like it.
Come on, everybody. Rock to the max.
Musique, bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léalisa, bonjour à tous.
Direction l'Écosse aujourd'hui.
Et oui, depuis ses premiers pas, au tout début des années 2010, le trio écossais Young Fathers s'est imposé comme l'une des formations les plus passionnantes du paysage pop moderne, avec un mélange détonnant de hip-hop, électro et soul qui a séduit un public de plus en plus large et engrangé les récompenses comme le prestigieux Mercury Prize en 2014. Le groupe vient de publier son 4e album après 5 ans d'absence et il semble s'y régénérer complètement en trouvant l'équilibre parfait entre des mélodies très accrocheuses et une approche brute et expérimentale de la production. Les Young Fathers ont enregistré Heavy Heavy dans leur propre studio de façon très spontanée et le résultat est fascinant.
Into shape, turning matter into clay. I fall to mess, no superstition. I am the vision, young black gifted with a vision. Yeah. Got all the wishes like Aloysius, but I'm Aloysius. Master Coy straight from the voice, so I'ma get me.
C'était Young Fathers sur RFI, Accent d'Europe. Françoise Grelot à la réalisation. Rendez-vous sur notre site RFI.fr ou en podcast pour tout savoir de l'actualité européenne. À bientôt.